Pour certains voyageurs, Rome est avant tout la ville de la chrétienté et du pape. Écoutons Edgar Quinet en 1832.
Dans Rome, tout est chrétien, jusqu'au paganisme lui-même. Ce qui fait que Rome est elle-même l'emblème permanent du catholicisme, le voici. Au-dessus des ruines des basiliques, des mosaïques, au-dessus de l'Antiquité et du Moyen-Âge, la coupole de Saint-Pierre s'élève comme la domination visible de la papauté. De presque tous les endroits de la plaine, et surtout des hauteurs, vous apercevez toujours au loin, dans le désert de la campagne, ce dôme qui marque la place de Rome. C'est la triple couronne et la mitre de la ville éternelle. Si le dôme de Saint-Pierre manquait à Rome, elle serait toujours la ville des tombeaux par excellence, mais elle ne serait plus l'emblème visible de l'Église triomphante. Il lui manquerait sa tiare.
Saint-Pierre de Rome fascine et séduit. Charles Duclos, mais aussi Stendhal ou Chateaubriand.
Un pape commence et ses successeurs continuent. L'église de Saint-Pierre est l'ouvrage de 30 papes. C'est aussi le plus grand et le plus beau monument qu'il y ait peut-être jamais eu. Car je doute fort que l'Antiquité ait rien produit d'égal.
Si l'étranger qui entre dans Saint-Pierre entreprend de tout voir, il prend un mal de tête fou et bientôt la satiété, la douleur rendent incapable de tout plaisir. Ne vous laissez aller que quelques instants à l'admiration qu'inspire un monument si grand, si beau, si bien tenu, en un mot, la plus belle église de la plus belle religion du monde. Faute de cette méthode, vous vous fatiguerez étonnamment et arriverez plus vite au dégoût de l'admiration. C'est le seul sentiment que le voyageur ait à redouter ici.
Quand le temps est mauvais, je me retire dans Saint-Pierre ou bien je m'égare dans les musées de ce Vatican aux 11 000 chambres et aux 18 000 fenêtres. Quelle solitude de chef-d'œuvre!
En 1816, Stendhal assiste à une messe à la chapelle Sixtine. Il est davantage séduit par le décor que par la musique.
Je sors de la fameuse chapelle Sixtine. J'ai assisté à la messe du pape à la meilleure place à droite, derrière le cardinal Consalvi. J'ai entendu ces fameux castrats de la Sixtine. Non, jamais Charivari ne fut plus dégoûtant. C'est le bruit le plus offensant que j'ai entendu depuis 10 ans. Des 2 heures qu'a duré la messe, j'en ai passé 1 et demie à m'étonner, à me tâter, à sentir si je n'étais point malade, à interroger mes voisins. Mon parti bien pris sur la musique, j'ai joui des mâles beautés du plafond et du jugement dernier, et j'ai étudié la physionomie des cardinaux.
Certains voyageurs ont la chance de rencontrer le pape. L'historien Gilles Bertrand nous parle de ces entrevues.
Les rencontres avec le pape sont des rencontres au cours d'audience, toujours assez brèves, plus importantes au XIXe siècle qu'au siècle précédent, pour une raison très simple, c'est que beaucoup des voyageurs du XVIIe et XVIIIe siècle, lorsqu'ils viennent de France, sont des esprits forts, on va dire, et lorsqu'ils viennent d'Angleterre, d'Allemagne, ils sont de religion protestante. En revanche, au XIXe siècle, il y a à l'occasion des jubilés, donc 1800, etc., il y a une figure du pape. On a amené le pape à être vraiment le centre d'un voyage à Rome. Et donc, c'est le cas au XIXe, pendant tout le siècle, une identification entre la ville et le pape, avec des visites qui, sans être longues, apparaissent comme ce qui donne sens au voyage. Parce que la personne du pape, la manière de le rencontrer, donne au voyage cette dimension sacrale qui, jusqu'alors, était plus donnée par la participation à des rituels collectifs, tels qu'à Lorette ou à Rome, les cérémonies en tout genre.
Chateaubriand raconte ainsi en 1803.
Sa sainteté m'a reçu hier. Elle m'a fait asseoir auprès d'elle de la manière la plus affectueuse. Elle m'a montré obligeamment qu'elle lisait le génie du christianisme dont elle avait un volume ouvert sur sa table. On ne peut voir meilleur homme, un plus digne prélat et un prince plus simple.
Stendhal, lui aussi, est séduit par Picette.
Les femmes ne peuvent être présentées au pape, mais tous les dimanches, à 1 heure, sa sainteté se promène dans le jardin du Vatican et trouve sur son passage les dames étrangères. Aujourd'hui, il y avait 60 anglaises, dont 3 ou 4 de la première beauté. Elles avaient l'air empruntées. Tout s'est fort bien passé. Pour moi, je suis amoureux du pape et je voudrais qu'il vécût un siècle.
Quelques années plus tard, c'est Alexandre Dumas qui compte ainsi son entrevue avec Grégoire XVI.
Le pape reçoit toujours debout. 3 fois, celui qu'il daigne recevoir s'agenouille devant lui. Une première fois sur le seuil de la porte, une seconde fois après être entré dans la chambre et une 3e fois à ses pieds. Alors il présente sa mule, sur laquelle une croix est brodée, pour que l'on voit bien que l'hommage rendu à l'homme remonte directement à Dieu et que le serviteur des serviteurs du Christ n'est que l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Le pape ne parle, dans ses audiences, que latin ou italien, mais on peut lui parler le français qu'il entend parfaitement. J'arrivais à la porte du cabinet pontifical, plus tremblant encore que je ne l'avais été sur l'escalier. Je suivais immédiatement l'ambassadeur, et, entre lui et la porte, j'aperçus sa sainteté debout et nous attendant. C'était un beau et grand vieillard, âgé de 67 ou 68 ans, à la fois simple et digne, avec un air de paternelle bonté répandu sur toute sa personne. Il portait sur la tête une petite calotte blanche et était vêtu d'une simarre de même couleur, boutonnée du haut jusqu'en bas et tombant jusqu'à ses pieds.
Mais le voyageur qui a rencontré le pape, qui a découvert le Colisée et le Forum, Saint-Pierre et le Janicule, a fini son grand tour. Il doit un jour reprendre la route du Nord, le cœur lourd, comme Chateaubriand.
Je vais bientôt quitter Rome et j'espère y revenir. Je l'aime de nouveau passionnément, cette Rome si triste et si belle.
Dans les rues de Rome, j'aime me promener. Je vais du Forum jusqu'au Colisée. Le long des ruelles rouges et orangées, je vois les églises et les vieux palais. Et cette colline semée d'oliviers. Mes amis, ne soyez pas trop tristes. J'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, sur une terrasse, on boit des cafés. Des marchands de glace se mettent à crier. La Piazza Navona est tout agitée. Et sur la Piaggio, les garçons sont beaux, les filles sont jolies, sur la Via Condotti. Lorsque la nuit tombe, on va s'habiller, on sort, on se montre, on aime se parler. Des joueurs de guitare viennent nous bercer, de belles histoires qui nous font rêver. Et sur les trottoirs, on se met à danser. Mes amis, ne soyez pas trop tristes, si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie. À Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, pour une romaine qui m'a rendu fou. J'ai perdu la tête pour ses yeux si doux. Et sous sa fenêtre, je viens lui donner une sérénade que j'ai composée, une tarentelle que je viens vous chanter. Ti adoro, adoro le tue mani. Ti adoro, adori i tuoi occhi. Ti adoro, mangola di più. Ti adoro di notte, ti adoro amore, ti adoro di più. Dans les rues de Rome, j'aime me promener. Je vais du Forum jusqu'au Colisée. Le long des ruelles, rouges et orangées, je vois les églises et les vieux palais. Les sept collines semées d'oliviers.